Europe 1, la France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans la France bouge sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. La France bouge, ce sont des initiatives positives, des entrepreneurs, des dirigeants qui ont des envies, des idées et qui foncent. Au sommaire, ce soir, le bijou à l'honneur avec une entrepreneure pas comme les autres. Elle n'était pas destinée à être à la tête de son entreprise, encore moins dans les bijoux. Elle a modernisé la joaillerie comme jamais, fabriquée en France, des bijoux de qualité. Elle s'est lancée il y a 12 ans, avec son mari. Et le nom de son entreprise vous dit sûrement quelque chose, c'est Gemio. Bonsoir Pauline Léniaud.
Bonsoir Elisabeth.
Je suis ravie de vous accueillir ce soir.
Aussi.
Vous êtes la fondatrice de Gemio. Bienvenue dans la France bouge. Autour de la table, bonsoir Clara Léger.
Bonsoir Elisabeth.
Avec vous ce soir, les bijoux de... Oui, mais des bijoux sur mesure de coûte, c'est-à-dire...
Je vous présente Arnaud Dobresque, c'est le cofondateur de Nemes, une marque unique qui permet donc de créer son bijou sur mesure en seulement 20 minutes sur Internet.
20 minutes, comment est-ce possible?
Via un procédé de fabrication très précis.
Vous allez tout nous dire. Rendez-vous à 20h50 et dans cette France bouge sur Europe 1, une start-up, une joaillerie responsable avec des bijoux réalisés à la main à partir d'or recyclé et des diamants de synthèse. Bonsoir Maïs Hazard.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans la France bouge. Vous aussi, vous avez fondé votre marque avec votre mari. Ça doit être la team association avec les maris quand on travaille dans la joaillerie. Votre entreprise s'appelle Loyal. Bienvenue dans la France bouge. Vous aussi, vous allez tout nous raconter. Surtout, allez-vous convaincre la patronne et la coach de ce soir? Elle dirige une grande marque de thé français, Daman Frère. Bonsoir Erika Lenoane.
Bonsoir.
Je suis ravie de vous retrouver sur Europe 1. Ça vous a inspiré, Loyal?
Énormément, j'ai eu un vrai coup de cœur et je vous raconterai, mais j'ai hâte que l'émission commence parce
j'ai plein de choses à dire. Eh bien justement, allez, la France bouge sur Europe 1, c'est parti, c'est l'émission des audacieux, nous sommes ensemble jusqu'à 21h.
La France bouge. Elle fait tourner la boîte.
Et ce soir, c'est vous, Pauline Léniaud, fondatrice de Gemio. Vous faites tourner la boîte. Nous allons nous plonger dans l'univers de la joaillerie. Tiens, les bijoux, vous portez quoi ce soir, Pauline Léniaud?
Alors, je suis jamais sans ma bague actuellement, Pénélope, qui est mon alliance, celle que je me suis créée quand je me suis mariée, à l'occasion d'ailleurs de la création de Gemio. La bague en taille, elle, qui est l'un de nos modèles iconiques, bracelet rétro Milano.
Donc, hyper beau ce bracelet.
Il est magnifique. Hein. Ouais. Je suis assez bijoutée, comme vous pouvez voir.
Un jonc un peu.
Inspiré du dôme de Milan que vous devez certainement connaître. Donc, ce motif très ciselé. J'ai également une petite earcuff pour un côté moderne, earcuff en taille.
Alors, earcuff pour les auditeurs d'Europe, hein, si on ne connaît pas, parce qu'on a le droit, c'est une petite boucle d'oreille qu'on pose, mais en haut de l'oreille.
Exactement, qui est comme un clip d'oreille et qui d'ailleurs se détache en fait. On n'a pas besoin d'avoir les oreilles percées, ça tient très bien, je le précise. On a fait beaucoup d'efforts pour ça. On essaye de concevoir des bijoux qui soient beaux, bien évidemment, mais aussi qui soient agréables à porter, qui soient confortables.
Qui font pas mal, qui
piquent pas. Exactement. Et ça fait partie du travail des joailliers, je trouve, justement, d'avoir un bel objet sculptural, mais aussi qui soit un objet qu'on puisse réellement porter. C'est en ça qu'on a d'ailleurs voulu moderniser aussi la joaillerie.
C'est important. Mais vous, Erika Lenoane, vous portez quoi?
Moi, je porte pas grand chose parce que je travaille sur un site de production. Et
oui,
en fait, dans l'agroalimentaire,
on est une marque, Erika, boucle d'oreille, pendantif,
il faut enlever tous les bijoux, mettre des charlottes,
La charlotte avec l'earcuff, c'est pas top.
On
c'est
a
vrai.
Eu la, voilà. la chance avec l'équipe de la France Bouge de visiter les ateliers de Daman Frère. En effet, on était, on peut dire, avec des charlottes un peu déguisées, mais bon, c'est normal.
Oui,
c'est
mais l'agroalimentaire, c'est très strict, c'est des raisons d'hygiène. Alors du coup, à force de les enlever, je les remets plus. Mais moi, j'adore les bijoux.
On va trouver une solution. On a tous quelque chose avec les bijoux. C'est ce qu'a constaté Antoine Fenech ce matin dans les rue de Paris au micro Europe 1 de la France bouge.
J'ai un bijou qui marque ma famille depuis plusieurs générations. Il s'agit d'une chevalière en fait qui appartenait à mon arrière-grand-père, qui a été transmis à mon grand-père et là transmis à mon père. Et c'est un objet qui nous suit et qui a une très très forte valeur sentimentale.
J'aimais beaucoup regarder la boîte à bijoux de ma mère. Des fois, je lui chipais des bijoux et je me les mettais autour du cou. Ça me donnait un petit effet de style et je m'inventais des histoires avec ça.
Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vu une bague au doigt de ma maman et en fait, c'est la bague de son mariage. Elle l'a toujours portée. Et ce qui m'a marqué, c'est que quand elle cuisinait, elle avait tendance à la retirer. Je la voyais toujours traîner sur le plan de cuisine et elle la remettait après. Et du coup, moi, je m'amusais toujours à la mettre sur mes tout petits doigts. C'est très symbolique pour moi.
Dans ma famille, il y a un bijou de famille qui se transmet de génération en génération. C'est la bague de fiançailles. C'est un saphir entouré de diamants. C'était mon arrière-grand-mère qui l'avait acheté à l'époque, qui l'a donc transmise à sa fille et à moi aujourd'hui.
On l'a entendu, hein. On a tous une histoire avec nos bijoux. Nous sommes toujours avec vous, Pauline Léniaud. Vous êtes la fondatrice de Gémio. Alors, on le voit, le bijou a une place particulière dans les moments importants de nos vies. C'est pour cela, entre autres, que vous avez créé Gémio il y a 12 ans. Vous allez nous dire en une minute ce qu'est Gémio, puisqu'il y a ce rituel du pitch dans La France Bouge, vous y connaissez. Vous allez nous pitcher Gémio et on se retrouve juste après. Vous êtes prête ?
Je suis prête.
Allez, c'est à vous.
Gémio, c'est une marque que j'ai créée il y a maintenant 12 ans. C'est venu d'une expérience personnelle. Quand je me suis fiancée avec mon mari, on a créé l'entreprise ensemble. On ne s'est pas reconnus, tout simplement. On a été place Vendôme. On a trouvé que c'était une expérience qui était froide, alors que finalement, on voulait vivre ce moment comme un moment de plaisir, un moment de joie. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est finalement, c'est fou, mais ces beaux moments de vie, il faut qu'on les réinvente. Il faut qu'on crée le luxe de demain, la joaillerie de demain. Et c'est vraiment ça, finalement, l'idée de Gémio, de garder à la fois tous les savoir-faire ancestraux qui fonctionnent bien. Une fabrication 100% française, c'est le cas chez Gémio, ce qui est d'ailleurs assez rare dans le monde de la joaillerie aujourd'hui. Vraiment une exigence de qualité. On va vraiment essayer d'avoir des savoir-faire, mais en même temps de moderniser tout ce qui est modernisable. Un peu comme si on réinventait la joaillerie aujourd'hui. Quoi. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On a inventé la joaillerie qui n'existait pas. Et donc, plusieurs aspects. Déjà, proposer beaucoup plus de pierres différentes. On a du saphir, évidemment, du saphir vert, du saphir teal, des pierres qui sont rares, qui sont souvent réservées à la haute joaillerie. On va avoir également, en fait, un vrai aspect sur le service qui, je trouve, se perdait aujourd'hui dans la joaillerie. Et donc, vraiment une exigence sur service, une fabrication qui est uniquement à la commande pour pouvoir proposer des prix qui sont justes, parce que ça aussi, ça fait partie du service, de vraiment s'assurer de ça. Un aspect aussi sur la responsabilité, avec de l'or et du platine recyclé, des labels dans tous les sens. Enfin bref, on a essayé de prendre le meilleur de ce qui se faisait dans la joaillerie traditionnelle et de tout ce qui finalement était un petit peu passé, de le moderniser. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire.
C'est ce que vous avez essayé de faire. Merci pour votre pitch, Pauline Léniaud, fondatrice de Gémio. Je vous ai laissé un peu plus d'une minute parce que c'était passionnant. Il y a plein de choses dans votre pitch pour Gémio. Il y a quelque chose que je retiens, c'était cette expérience dans cet univers. Hiver froid, c'est vrai que quand on a envie, même pas pour s'acheter un bijou, même entrer dans une bijouterie, si on a la chance de se promener place Vendôme ou dans d'autres très belles places dans les capitales européennes ou autres, on n'ose pas rentrer tout simplement.
Bah oui, il y a un vigile à la porte, c'est intimidant, ça fait peur. Alors il y a des raisons, évidemment,
des raisons de sécurité,
mais on pense qu'il est possible d'avoir un service qui est chaleureux et haut de gamme en même temps. Et pour moi, c'est ça ma nouvelle vision du luxe. Ce que je pense qu'il doit se réinventer, ce luxe, c'est qu'il n'est pas censé être intimidant. Le vrai service, c'est justement un service qui soit personnel, qui soit intime, qui donne envie en fait d'être bien. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter à nos clients chez Gémio. On a un site internet où on essaye bien évidemment d'apporter la meilleure expérience, mais à distance, via du chat, site internet avec le téléphone, etc. Mais aussi des boutiques. Et là, quand vous arrivez, on essaye d'accueillir les clients littéralement comme s'ils étaient des amis de la maison. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'occuper d'eux, les considérer. On va essayer de leur donner des vrais conseils et pas juste essayer de leur vendre quelque chose. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui manque au luxe aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'estime, et c'est ma vision de Gémio et du luxe, qu'on est en train d'inventer le luxe de demain.
Vous êtes en train d'inventer le luxe de demain, mais avant de parler de demain, déjà, on va essayer de comprendre et de revenir sur votre histoire. Est-ce que vous aviez un lien particulier avec l'univers du bijou et de la joaillerie ?
C'est une bonne question. Alors, c'est rare, mais non, je n'avais pas de lien.
Mais moi, c'est ça qui me frappe dans votre histoire, parce que c'est un univers, on le sait, hyper fermé. Beaucoup de familles qui se transmettent de génération en génération, je peux le dire le mot, des vieilles maisons françaises.
Ah oui, oui.
Comment on pénètre cet univers du bijou avec les diamants, les saphirs, c'est quand même très cloisonné.
Bah, je pense qu'on fait partie aujourd'hui, et j'ai pas mal de fierté en le disant, des rares marques qui ont émergé au 21e siècle en joaillerie et surtout qui ne venaient pas de ce monde. Comme vous l'avez dit, c'est extrêmement rare. Mmh. Parce que la plupart des autres marques qui ont émergé ces dernières années, en fait, venaient du monde de la joaillerie. Mais ça nous a donné un avantage aussi, c'est qu'on a pensé les choses différemment. Je vous le disais, par exemple, on a complètement repensé le business model de la joaillerie. Alors, c'est des mots un peu barbares de parler de joaillerie, de business model, mais en fait, on s'est rendu compte que le fait de ne pas porter de stock et de fabriquer les bijoux à la commande dans nos ateliers en France nous permettait à la fois de proposer beaucoup plus de choix de pierres et donc beaucoup plus de liberté et de service à nos clients, mais en même temps de réduire nos coûts à nous, parce que le stock coûte très cher, et donc d'avoir des prix qui naturellement sont beaucoup plus justes, ce qui pour moi est également un service tout simplement supplémentaire qu'on apporte à nos clients. Donc ça, c'est quelque chose qu'un joaillier classique n'aurait jamais imaginé.
Mais au démarrage, il faut le rappeler, Gémio, c'était uniquement sur Internet.
C'était uniquement sur Internet.
Mais c'est ça aussi qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que vous arrivez, vous bousculez cet univers, comme on l'a dit, hyper feutré, avec ses codes, avec les gens, ils se connaissent tous, c'est un univers très petit. On arrive, on débarque, on va parler de haute joaillerie, et en plus ça va se passer sur Internet. Comment faites-vous ?
Bah, vous savez, aujourd'hui, pour tout vous dire, donc la marque a 12 ans et fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Et pour autant, on a encore 50% de notre chiffre d'affaires qui est en ligne. Et c'est fou quand on y pense. Mais moi, parfois, je suis étonnée quand je vois des clients passer des commandes à des dizaines de milliers d'euros. Ça arrive. On a aussi des bijoux qui sont plus accessibles, hein, bien sûr. Mais ça arrive. Je pense qu'en fait, on a pensé depuis le départ vraiment la marque comme étant une marque digitale. Et donc, Internet, pour nous, c'est pas juste un moyen, en fait. C'est la raison, en fait, pour laquelle on existe aussi. Et puis, c'est notre manière de communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui est uniquement pour une boutique ou uniquement pour le site. Tout est pensé de manière hyper holistique. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, on parlait de service. Si vous êtes client, vous pouvez passer commande en boutique, vous pouvez passer commande sur le site internet, vous pouvez à un moment donné aller en boutique, puis sur le site internet, puis repasser dans une autre boutique. Il n'y a pas de frais supplémentaires, il y a un service en fait qui est identique et nos clients ont un dossier sur chaque client de telle sorte qu'ils vont pouvoir les suivre et leur apporter un service personnalisé.
Service supplémentaire. Donc exactement. Ça veut dire qu'au début ça a été entièrement digital, il s'est passé 3-4 ans et là vous vous êtes dit avec votre mari, qui est donc votre associé, on va ouvrir, on va faire des magasins physiques parce que proposer des bijoux, même si là vous l'avez dit, il y en a certains qui n'hésitent pas à mettre 10-15 000 euros dans des bijoux en ligne, la majorité ont quand même besoin de venir, d'essayer, d'avoir cette fameuse expérience client.
Bah, ce qui s'est passé, c'est rigolo comme anecdote. D'ailleurs, je sais qu'on vous aimait qu'on parle d'entrepreneuriat. Au bout d'un moment, je me disais, OK, il faut que je parle à des personnes que je connais, qui sont dans mon entourage, qui me disent qu'ils adorent ma marque, qu'ils adorent nos produits, qu'ils trouvent nos créations trop belles, mais pour autant, qu'ils ne passent pas commande. Et donc, je suis allée les voir, littéralement, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne passez pas commande?
C'est être entrepreneur aussi.
Exactement. Parler aux clients, c'est toujours très important. Et aux prospects. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ces personnes m'ont dit, mais en fait, moi, je ne me vois pas passer commande d'un bijou, si jamais je ne l'essaye pas. Déjà, c'est un plaisir. Et puis d'autre part, vraiment, j'ai envie de le voir sur ma main, j'ai envie de me projeter. Et en fait, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que certaines personnes ne peuvent même pas considérer, c'est complètement impensable pour elles, de passer commande sans essayer un bijou, mais parfois pour des bijoux à quelques centaines d'euros. Et à l'inverse, pour certaines personnes, ça n'est absolument pas un problème. Et on a mis en place énormément d'outils, d'ailleurs, pour que ça soit le plus facile pour elles, des photos qu'on leur envoie, enfin énormément de choses. Mais néanmoins, si vous voulez, pour elles, c'est pas un problème. Et donc, il y a ces deux catégories de personnes et il faut accepter, en fait, qu'on est tous différents et qu'on a tous besoin justement d'avoir notre propre liberté.
Première boutique, c'était quand et où ?
C'était en 2015, rue de Seine à Paris. C'est une boutique qu'on a toujours dans le 6e arrondissement. Oui, bah, c'était une galerie d'art. On a toujours eu un lien avec les arts. C'est vrai que vous disiez qu'on n'avait pas de lien avec le monde de la joaillerie, c'est vrai, mais le monde artistique, moi j'étais prof en fait dans une autre vie et le monde des lettres, de la littérature, des arts, ça a toujours été quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. Ma maman est passionnée d'art et donc en fait j'ai baigné là-dedans toute petite et c'est vrai que je pense que le beau a toujours été quelque chose qui avait un attrait pour moi. Donc finalement, on tombe jamais très très loin de ce qu'on aime.
Combien de temps vous dites ça? Moi, j'ai des professeurs de lettres. Combien de temps vous êtes resté professeur de lettres?
J'ai fait toutes les études pour.
Vous avez fait l'ENS?
J'ai fait l'ENS, Normalsup. J'ai fait les stages et j'ai passé l'agrégation. Donc j'ai même l'agrégation.
On a une tronche hein,
ouais,
ce soir.
Ça
sur
servait à rien parce que je l'ai pas utilisé.
Non, tout sert. Tout sert, c'est ce qu'on essaye de montrer aussi dans l'entrepreneuriat, notamment. Tout sert. Erika Lenoine, vous êtes la coach de ce soir. Alors vous n'êtes pas dans l'univers du bijou, vous êtes dans l'univers du. Vous êtes la patronne de Daman Frères. Quel regard portez-vous sur Gémio? Est-ce que vous avez peut-être une question à poser à Pauline?
Je trouve que c'est une magnifique aventure. En plus, c'est une aventure à deux, puisque le mari est embarqué. Donc ça, c'est absolument génial de pouvoir former ce binôme. Moi, j'avais une question. Combien de boutiques vous avez aujourd'hui?
C'est une bonne question. On en a 9. On en a 3 à l'international. On vient d'ouvrir Tokyo.
Tokyo, vous rendez compte? Petite marque française, en petit nom. Tokyo.
Ouais, je peux vous dire que là j'y étais, j'y passe un peu de temps maintenant, c'est une autre aventure. Et en fait, c'est ça que je trouve formidable dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, l'aventure se renouvelle en permanence. Et là, à 12 ans d'expérience avec cet international, en fait, c'est comme si presque.
Vous recommencez à zéro. Pourquoi, quand vous allez à Tokyo, quand vous allez ouvrir une boutique à Tokyo, vous avez l'impression de redémarrer?
Un petit peu, parce qu'on est quand même assez peu connu à Tokyo, qu'il faut en faire ses armes. En France, aujourd'hui, la marque est quand même très connue.
Il faut aussi intégrer la différence culturelle qu'il peut y avoir.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez proposer des bijoux différents, un accueil différent pour vous adapter à la culture japonaise?
L'accueil, clairement, est fait déjà par des japonaises, bien sûr, parce qu'en fait, il y a en plus une exigence de l'accueil qui est quand même extrême au Japon, donc ça c'est très important. On essaye d'adapter, on va voir, pour l'instant c'est les débuts. La raison pour laquelle aussi on a décidé d'aller au Japon, c'est un pays que j'aime beaucoup, j'ai de l'affinité. Pour la petite anecdote, la marque Gémio, ça vient du nom de la gemme évidemment qu'on voulait remettre en avant, mais aussi c'est le nom d'une impératrice japonaise qui a été l'une des premières femmes à diriger le Japon et qui avait un esprit très pionnier. Et cet esprit pionnier, on avait envie de l'intégrer justement à l'ADN de la marque, c'est pour ça qu'on a appelé la marque Gémio. Donc il y a toujours eu un atavisme pour le Japon, et c'est un pays, si vous voulez, pour moi, qui est le nec plus ultra en termes de qualité de service, qui est quelque chose de très important, vous avez compris, pour moi. Donc y aller, c'était quand même pour nous un enjeu et un challenge, mais en même temps aussi un aboutissement.
Donc elle a ouvert quand cette boutique ?
Elle a ouvert en décembre de cette année.
Et comment se porte-t-elle ?
Elle se porte très bien. Bah, pour tout vous dire, on a des rendez-vous qui sont pris jusqu'au mois de mai actuellement. Donc on fait de la publicité, etc. Et ça fonctionne très bien. Et je dois dire que les Japonaises ont un attrait pour les marques françaises incroyable. Et puis d'autre part, elles aiment en fait nos produits, elles aiment nos créations.
Comment on sait que vous êtes français ? Parce que moi je suis allée regarder, j'ai pas vu de drapeau, rien de spécial. Comment, par exemple, à Tokyo, on sait que Gemio est une marque française ?
Alors, c'est une très bonne remarque, Elisabeth. Et d'ailleurs, au Japon, pour tout vous dire, on met un petit pari sous notre Gemio. On a légèrement adapté, c'est la différence culturelle dont parlait Erika.
Mais voilà.
Mais effectivement, il faut faire un petit peu d'adaptation. En France, je trouve personnellement qu'on n'a pas besoin de le dire. Et j'aime bien, c'est noté sur notre site un peu partout.
Oui, oui.
D'ailleurs, je le dis souvent dans mes interviews. Sur le site, vous avez une section La Maison où vous avez toute l'histoire de la maison. On explique qu'on fabrique 100% en France, qu'on est une marque française.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous fabriquez tout en France, ce qui n'est pas le cas de grandes maisons de joaillerie.
C'est très rare.
Justement, Clara Léger, la bijouterie joaillerie, comment ça se porte ? Est-ce que c'est un secteur qui se porte bien en France ?
Plutôt bien. La production a augmenté de 31% en 2022 pour atteindre les 4,6 milliards d'euros. En France, les ventes de bijoux précieux ont augmenté de 20% toujours en 2022 et de 6% en 2023.
Donc on achète des bijoux. C'est quoi les bijoux que l'on porte le plus, Clara ?
D'abord les bagues, les colliers, les bracelets et en dernière position les boucles d'oreilles. Peut-être parce qu'on n'a pas toutes les oreilles percées. Ou tous d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Mais le Yerkoff y répond.
Exactement.
C'est accessible à tout le monde.
J'ai appris quelque chose.
Pauline Léniaud, actrice de Gemio. Donc, c'est un travail à la commande. Comment vous vous approvisionnez ? Elles viennent d'où, vos pierres ?
Elles viennent de partout dans le monde. On a une équipe de gémologues qui
sont
formées.
Vous y allez ?
J'y vais de temps en temps. En tout cas, je l'ai fait au début. J'ai dû apprendre sur le tas.
Ouais.
C'est aussi ça, être entrepreneur, c'est se former. Mais c'est formidable parce qu'après, du coup, quand vous achetez, vous savez aussi pourquoi vous achetez les choses. Il y a une différence d'ailleurs entre être gémologue et être acheteur de pierres. Et donc, nous, on forme nos équipes pour qu'ils soient les deux. Et en l'occurrence, on a une équipe formidable, franchement. Nous, vous savez, l'une de nos particularités, c'est aussi de proposer des pierres atypiques. Le saphir vert, le saphir teal, le spinel gris. C'est des pierres qui sont habituellement réservées.
Le saphir vert, c'est pas une émeraude.
C'est pas une émeraude du tout. C'est une très belle pierre qui vient en général de Madagascar et qui est un saphir, mais d'une couleur très belle verte. Il y a d'ailleurs des nuances différentes. La nôtre est un peu un vert olivier. C'est très beau. Et d'ailleurs, ça va apporter une touche différente sur un bijou. Je pense qu'on n'a jamais envie d'avoir exactement le même bijou que ses voisines.
Bien sûr.
Et donc, le fait d'avoir la possibilité de choisir sa pierre, je trouve que ça apporte justement énormément de personnalité. En plus, une pierre, elle raconte une histoire. Chaque pierre a une symbolique. Et donc, c'est ça qui est aussi formidable. L'aigle marine, qui est une très jolie pierre bleue, c'est une pierre cristalline qui va évoquer la transparence, justement, la pureté. Le saphir, c'est la sagesse.
Elle nous fait
On voyage.
Donc
avec
vous voyagez, vous vous approvisionnez en pierre, mais vous aimez dire, Pauline Léniaud, que vos bijoux sont au prix juste.
Oui, alors c'est...
Ça veut
c'est...
dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus cher, moins cher, c'est quoi ?
Ça reste de la joaillerie, je ne vais pas vous mentir, Elisabeth, donc ça reste des produits qui sont onéreux. On est sur de l'or 18 carats, du platine, des pierres précieuses, avec une fabrication française, un extrême contrôle qualité. Donc en fait, je ne vais pas mentir et dire c'est pas cher. Ça n'est pas le cas, c'est pas ce qu'on souhaite. On est en train de créer une alternative au luxe, donc on est quand même dans le luxe. Mais malgré tout, pour moi, le luxe aujourd'hui s'est perdu, parce qu'en fait, il essaie uniquement de vendre des produits chers, avec de la qualité, certes, mais sans aucune notion de prix. Et pour moi,
toujours.
Le prix, c'est un service, en fait, finalement. Et un bon prix, c'est un effort de la part de la marque, donc je le dis, c'est un effort de notre part, c'est un combat presque du quotidien pour apporter le meilleur service en termes de prix à nos clients.
Mais comment vous les déterminez alors vos prix ?
Ah bah on les détermine en fonction des coûts, évidemment. Mmh. Et je vous cache pas qu'en ce moment, avec les coûts de l'or,
mais
c'est d'ailleurs
ça.
Assez
comment
compliqué.
Vous faites ? Parce qu'on a vu, il y a une explosion du cours de l'or.
Bah, je sors d'une réunion de ce matin, juste avant que je vienne vous voir ce soir, où nous avons dû parler d'une éventuelle augmentation des prix parce que l'or a énormément pris et qu'on est obligé à un moment donné de l'impacter. Mais quand on le fait, on annonce toujours d'ailleurs, à nos clients qu'on va augmenter nos prix pour au moins les prévenir. Et ça aussi, cette exigence de transparence...
Ce sera augmenté de combien, là
Alors, c'est pas encore décidé.
Non, mais...
Mais si c'est le cas, ça sera 6-7%.
Ah, ce qui est beaucoup.
Bah, disons que sur des paniers 6-7%. Moyens à 2-3 000 euros, ça fait une différence.
Ça fait une grande différence.
C'est pour ça qu'on veut anticiper.
J'ai une question moi, économique, en fait. Est-ce que les bijoux, c'est un peu comme l'or, justement, c'est une sorte de valeur refuge ? C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des périodes de crise, finalement, c'est un investissement. Et est-ce que finalement, on n'en vend pas plus ?
On a bien vu, d'ailleurs, que pendant le Covid, et Clara disait très bien les chiffres tout à l'heure, il y a eu vraiment un retour sur la joaillerie, sur l'horlogerie aussi, sur le précieux, sur les objets, aussi sur le temps long. Parce que c'est ça, finalement, le bijou. C'est un objet de transmission, on l'a très bien entendu tout à l'heure. En fait, ce sont des objets qui se transmettent de génération en génération. génération. Et donc, il y a une valeur, bien sûr, financière, mais aussi émotionnelle, qui est très forte. Et d'ailleurs, plus le temps est long, plus la valeur émotionnelle est importante. Et moi, par exemple, tous mes bijoux, quasiment, ils sont liés à une occasion. Cette bague, je me la suis achetée, la bague Paris 1901, quand on sortait du Covid, et que ça a été une bague très dure pour nous, le tout début du Covid. Et je me suis dit, je sais pas si la marque va s'en relever. Et
allez, donc, quand on est sorti, un petit cadeau.
Voilà, je me suis dit,
bien
oui,
sûr,
mais oui,
mais
c'est un symbole. C'est un symbole, le bijou. Mmh. Et ça, il faut jamais l'oublier. Donc oui, vous avez raison, Erika, quand il y a des périodes de crise, souvent, on se, paradoxalement, on réinvestit sur ce genre d'objet.
Alors, est-ce que ça signifie qu'en ce moment, 2024, ça marche très très bien pour vous, Gémio, parce qu'on est dans cette période d'inflation, des hausses des prix des matières premières. Est-ce qu'on se réfugie vers les bijoux, vers l'or, vers ces très belles pierres précieuses?
Bah, pour nous, en tout cas, c'est le cas. Ça se porte très bien et on est sur des croissances encore à deux chiffres.
Ça veut dire quoi, par exemple, par rapport à l'an dernier?
Non, mais bon, on est sur des croissances moins fortes, pour être honnête avec vous, qu'en 2021-2022. Et c'est vrai que les chiffres dont parlait Clara, je pense, sont des chiffres qui sont un peu biaisés, puisque maintenant, la période est quand même moins faste. Mais néanmoins, nous, on a une chance, c'est qu'on est en train de se développer aussi beaucoup via l'international. Et donc, c'est des marchés entiers qui sont nouveaux pour nous. On a ouvert la Belgique, on a ouvert la Suisse, on est en train d'ouvrir Zurich aussi en Suisse, on est en train d'ouvrir le Japon.
C'est osé d'aller d'ouvrir en Suisse, hein.
Ouais, c'est osé, mais
c'est quand même la terre de tout ça,
bah,
aussi.
Vous savez, c'est pour ça. Mais vous savez, on a un petit côté un peu révérencieux.
Légèrement
provocateur.
Vous êtes là, et ben nous, on arrive.
c'est un peu ça,
j'ai mis.
Mais c'est le haut lieu de la joaillerie. Et on a d'ailleurs créé une montre, notre première montre Swiss Made, et on a voulu aussi la vendre en Suisse. C'est quand même quelque chose pour un jeune entrepreneur de se dire, ma marque, elle a 12 ans, j'ouvre en Suisse, à Genève, la capitale de la joaillerie et l'horlogerie.
C'est osé, mais il faut être audacieux.
Il faut oser.
Il faut oser quand on est entrepreneur. Donc, vous dites que ça marche bien, croissance à deux chiffres par rapport à l'an dernier.
On est sur des croissances qui sont similaires, dans notre cas. Mais bon, je pense que le marché est moins facile, honnêtement, pour beaucoup de marques. Nous, on a une chance, c'est qu'on a des collections qui se portent très bien, des nouvelles collections qui se portent très bien, dont en taille, par exemple. Et puis, d'autre part, le développement à l'international, c'est quand même une source de croissance très importante pour nous.
Il faut oser, ça tout est rêver grand. Ça a toujours été votre credo, Pauline Legnaud, fondatrice de Gémio, ce soir sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, vous écoutez La France Bouge. Ce soir, on parle des bijoux, de la haute joaillerie et tout ça, c'est français. Vous restez autour de la table de La France Bouge et je suis ravie d'accueillir une autre entrepreneure. Elle a fondé Loyal. Ça s'écrit L-O-Y-A-L point E. Pourquoi point E, Maïs Hazard?
Parce qu'on offre des bijoux qui sont à la fois portés par des femmes et par des hommes.
Et bien justement, c'est le moment de vous écouter, de découvrir la start-up de ce soir.
Europe 1, La France Bouge.
La pépite.
Maïssa, vous êtes l'une des pépites de ce soir, parce que vous êtes toutes des pépites ce soir sur Europe 1. Vous avez 29 ans, votre entreprise a été fondée il y a 3 ans, c'est ça?
Tout à fait.
Vous avez baigné dans un milieu artistique avec votre grand-mère et vos tantes, et un milieu d'entrepreneur avec votre papa.
Exactement. Hein? Donc j'ai eu la chance d'avoir en fait une grand-mère couturière, une grand-mère qui était passionnée par la joaillerie, des tantes qui sont dans architectes d'intérieur, dans la décoration, dans l'art. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup baigné dans un milieu créatif. Mmh. Et j'ai aussi, en grandissant, eu la chance de voir mon père qui était entrepreneur. Et ça m'a beaucoup inspirée. J'ai trouvé qu'en fait, cette liberté qu'il avait de pouvoir prendre des risques, de pouvoir challenger les choses, de rencontrer plein de personnes différentes, assez passionnant. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée de... pour lancer Loyal.
Oui, ça vous a inspiré, mais quand même, vous avez commencé votre carrière dans le marketing, dans l'univers de la haute couture. Vous êtes partie à Londres, à Singapour, et vous aussi, hein, c'est assez semblable, c'est que vous êtes allée vers l'univers de la joaillerie parce que vous aussi, vous étiez à la recherche de votre bague de fiançailles et ça collait pas.
Tout à fait, exactement. C'est un peu la même histoire que Pauline avec la bague de fiançailles. Donc en fait, moi, j'ai toujours été passionnée de joaillerie. Mm-hmm. C'est quelque chose que m'a transmis ma grand-mère. On revient encore sur cette notion de transmission et de des différentes personnes que vos collègues ont interviewées.
Antoine Fenech.
Quand j'avais 12 ans, j'ai vu une bague dans le tiroir de ma grand-mère. Et cette bague m'a vraiment éblouie. À chaque fois que j'allais chez elle, je rentrais dans sa chambre et j'essayais d'essayer cette bague.
C'était quoi cette bague? Faites-nous rêver.
Alors, c'était une bague, en fait, qui avait l'air d'un... pour moi, j'appelle ça des feux d'artifice. Alors, elle avait une princesse violette. Je sais même pas, en fait, aujourd'hui, si c'est une pierre précieuse ou pas. J'ai jamais cherché à le savoir. Entourée de plein de petits diamants en taille marquise et poire. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Et quand ma grand-mère est partie, elle m'a légué cette bague. Et à chaque fois que je la portais, je revoyais un peu tous ces souvenirs que j'avais avec elle.
Cette notion de transmission, elle revivait quelque part à travers cela.
Exactement.
Et donc c'est comme ça, donc vous allez essayer votre bague de fiançailles, ça colle pas, vous avez des valeurs très prégnantes hein, dans votre dans vos choix.
Du coup, oui. Pour ma bague de fiançailles, je souhaitais un diamant de synthèse. Donc, en faisant des recherches, j'ai découvert...
J'aurais jamais pensé. Donc, non, mais c'est vrai, il faut... Vous aviez ça en tête.
Alors, j'avais ça un peu en tête, oui. J'ai découvert cette incroyable innovation. Mm-hmm. J'ai trouvé ça assez fascinant. Et donc, je voulais un diamant de synthèse pour ma bague de fiançailles. Donc, j'ai été voir un peu les quelques marques qui existaient à l'époque. Sauf que j'ai pas trouvé mon bonheur. Le peu de marques qui existaient se focalisaient énormément sur l'aspect éco-responsable, au détriment de la création, de l'histoire derrière chaque pièce. On va pas se mentir, on n'achète pas un bijou juste parce qu'il est éco-responsable. Mmh. C'est avant tout un moyen d'expression de soi, de marquer des bons moments, et c'est quelque chose qu'on va transmettre. Et vu ma passion pour la joaillerie, c'était très important pour moi d'avoir les deux, et je voulais pas faire de compromis, ni sur l'un ni sur l'autre.
Donc vous êtes lancée en 2021, c'est le moment du pitch. Loyal, c'est quoi? Eh bien, on vous écoute, c'est à vous Maïssa.
Alors, avec Loyal, j'ai voulu proposer une joaillerie pour marquer les moments importants dans une vie, pour marquer son individualité. À chaque fois que je porte mes bagues, ça me donne confiance en moi, parce que je me souviens de tous les combats que j'ai faits, de mon histoire, de ma famille, et ça me donne confiance en moi. Et donc, c'est ce que j'ai voulu transmettre en créant cette marque-là. Et j'ai voulu transmettre, du coup, une joaillerie qui soit responsable, engagé, qui préserve le savoir-faire artisanal français, tout comme Gemio d'ailleurs, voilà. Et toujours avec style, avec originalité. La particularité des créations loyales, c'est qu'on reprend les grands classiques de la joaillerie, qu'on vient épurer et moderniser pour faire ressortir la brillance des diamants et la finesse de l'or. Ce sont des bijoux, ce qui les qualifie, c'est que ce sont des bijoux qui ont à la fois une force et une délicatesse. Il y a toujours cette dualité qui est ancrée dans l'identité de la marque.
Merci pour votre pitch, Maïssa Hazard, fondatrice de Loyal. Donc tout est fait en France, sauf le diamant, lui, il vient des États-Unis.
Tout à fait, exactement. Mmh.
Parce que là-bas, c'est la technologie.
Ils sont pionniers sur la technologie.
En France, il n'y en a pas.
Alors, il y a un laboratoire en France qui est encore à un stade, j'ai pas envie de m'avancer pour eux, mais
c'est pas encore concluant pour vous.
Pour nous, non, parce que je pense qu'à ce stade, ils n'ont pas les capacités de nous sourcer en pierre.
Mmh. Quel regard portez-vous autour de la table de la France Bouge? Je m'adresse à la patronne, Pauline Léniaud, fondatrice de Gemio.
Bah, moi, je trouve ça super. Je suis complètement d'accord d'ailleurs avec Maïssa sur le fait qu'on n'achète pas un bijou pour des raisons uniquement éco-responsables. Ouais, c'est un service en plus. Et donc, c'est très important de le dire. Et je pense que Maïssa a très bien compris ça. Au final, ce qui compte pour un bijou, c'est la beauté de la création malgré tout. Mais il ne faut pas que ça se fasse à n'importe quel prix, bien sûr. Et c'est pour ça qu'avoir une dimension responsable est importante. C'est le cas aussi, bien sûr, chez Gemio, où on essaie d'avoir de l'or et du platine recyclé. Alors, mais je trouve ça très intéressant.
En matière de prix, Maïssa, vous vous situez comment? Vous emportez là sur vous ce soir,
oui,
les bijoux?
Oui, tout à fait.
Voilà, de ça, c'est chez vous.
Alors, non, tout
y a
ça, c'est
bagues,
nos créations.
Montre, je vous le décris, quatre bagues, des créations de chez Loyal.
Exactement. Donc là, j'ai la collection Intrépide, qui est notre modèle iconique. Et toute l'histoire derrière cette collection, je voulais créer le solitaire qu'une femme pourrait s'offrir à elle-même, qui ne soit pas le solitaire d'une bague de fiançailles.
Ah, c'est voilà, la femme qui a envie de s'offrir un petit cadeau.
Tout à fait.
Mais oui, vous avez bien raison. En termes de prix, on est sur quelle fourchette? On est où?
Alors, chez Loyal, on a notre tranche de prix est entre 1000 et 3000 euros. Bien sûr, on fait beaucoup de pièces sur mesure qui peuvent monter au-delà, sur du 10, 15, 20 000 euros. Et depuis quelques semaines, on a lancé une nouvelle collection de charms qui commence à 650
les
euros.
Les charms, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est des petits bijoux.
C'est des petits médaillons.
Petits médaillons met et qu'on rassemble autour d'une chaîne, hein, c'est ça?
Exactement.
C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes 5 personnes, dont votre mari, avec qui vous avez cofondé Loyal. Erika Lenoine, vous êtes la coach de ce soir. Alors, vous êtes la présidente de Daman Frères, mais vous savez ce que c'est que monter une entreprise, vous savez ce que c'est que diriger une entreprise. Quels sont les atouts? Que pensez-vous de la start-up de Loyal?
Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai reçu vos biographies, Maïssa et celle de votre mari, et je trouve que déjà, ils ont un atout majeur, c'est que vous avez de très fortes compétences. D'abord, vous avez fait la San Martin School.
Ah bah il faut le dire, parce que c'est pas rien, c'est vous incarner la marque.
Ah oui, et puis c'est quand même une école extrêmement reconnue. Vous avez fait l'Istituto Marangoni, donc là aussi, des écoles qui forment à l'art, au luxe, à la mode. Et votre mari, alors lui aussi, école des mines. Bon, bah, voilà, pour la partie gestion, il est certainement très carré.
Mais moi, je trouve qu'il y a des similiers.
Ils sont très complémentaires.
Oui, comme vous, Pauline, avec votre mari. Son mari a quand même fait centrale. Les mines, centrale.
Il a fait centrale. Centrale.
Ouais. Voilà, donc vous avez ça en commun, c'est que vous avez déjà des compétences extraordinaires. Et donc, j'imagine qu'il vous soulage de toute la partie qui vous, peut-être, vous plaît moins, toute la partie gestion et autres. Comme ça, vous pouvez vous focaliser sur la créativité. Donc, ça, c'est top.
Donc, vous dites, leur personnalité, leur parcours, surtout, sont
déjà
des
un point de force. Ce sont des atouts. Après, il faut ajouter forcément la passion et une vraie vision stratégique. Et je dirais aussi différenciante par rapport à vos concurrents, parce que vous n'êtes pas seul sur le marché. Il y a d'autres concurrents aussi qui ont ce Made in France, cet amour pour la beauté.
Oui, mais la particularité,
pour,
là, ce soir, moi, je trouve, avec L'Oréal, c'est quand même le diamant de synthèse.
Alors, justement, moi, je trouve que c'est un point de force. Oui, tout à fait. Parce que, enfin, l'éco-responsabilité, d'accord, c'est vrai que je suis d'accord sur le fait que l'esthétique, marquer un temps fort de sa vie, c'est important pour exprimer sa personnalité. Mais je trouve que l'éco-responsabilité, notamment dans les nouvelles générations, elles sont c'est quand même des valeurs hyper importantes. Et donc, j'adore, moi, cette idée de diamant, de culture, en fait, qui est un vrai diamant. Mais peut-être que je vais vous laisser expliquer ce qu'est un diamant de synthèse.
Un diamant
parce
de synthèse, c'est important. C'est ce qui différencie un diamant de synthèse du diamant de ma grand-mère.
Exactement.
Alors, un diamant de synthèse est un vrai diamant. Le diamant de mine, c'est quoi? C'est 99,9% de carbone pur. Ça se forme à 200 km sous la Terre grâce à des conditions spécifiques de haute température et de pression. Et puis, ça remonte à la surface grâce à la lave des volcans. Et aujourd'hui, grâce à une technologie de pointe, on est capable de répliquer ces mêmes conditions dans un laboratoire. Donc, on va répliquer cette même réaction physique qui se passe, qui est la cristallisation du carbone en une pierre. On obtient une pierre qui a les mêmes propriétés physiques, chimiques et optiques. Et c'est ce qui est assez fascinant. Et ce que je trouve génial, c'est que vu qu'on reproduit un environnement, donc dans les diamants, on a des critères qu'on appelle les 4C, qui créent la valeur et la rareté d'un diamant. Même avec le diamant de laboratoire, le diamant de synthèse, on a aussi ces critères-là parce qu'on fait que reproduire un environnement et on n'a aucun contrôle sur ce qu'on va obtenir. Donc on ne sait pas si on va obtenir une pierre de bonne, de mauvaise qualité, petite, grande, on ne sait pas. Et il y a toujours cet élément de magie qui est préservé.
Oui, mais est-ce que ça reste, est-ce qu'elle a la pierre conserve une singularité?
Oui, tout à
une
fait.
Une rareté.
Tout à fait. Alors en fait, ce qui fait la singularité d'un diamant de mine, c'est ce qu'on appelle les 4C. Donc son poids, le carat, les inclusions, sa pureté, sa couleur et la façon dont la pierre a été taillée.
Je rajouterais peut-être quand même son histoire aussi, malgré tout. Désolée, je ne veux pas du tout t'interrompre, mais ça, en plus, proposé du diamant de synthèse avec Gémio, donc je suis aussi favorable au diamant de synthèse, il n'y a aucun problème.
Mais c'est pas un débat pour
contre. Mais ça a tout à fait raison, au sens où le diamant de synthèse est littéralement, chimiquement et visuellement la même chose qu'un diamant naturel. Simplement, dans un cas, il a été réalisé par l'homme dans un laboratoire, et dans l'autre cas, il a été fait il y a des milliards d'années sous terre. Donc en fait, c'est ça aussi qu'on symboliquement, je pense que dans un cas, il faut être intéressé par la technologie, il faut être intéressé par finalement ce que crée l'homme, et c'est très beau aussi. Et dans l'autre cas, il faut être intéressé par l'histoire et ce qui a été créé,
etc. Aujourd'hui, vous avez une boutique.
Tout à fait.
Et donc, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous avez des besoins, vous avez une boutique, le diamant de synthèse devient de plus en plus connu. Vos besoins, c'est quoi? C'est d'en ouvrir d'autres? C'est recruter? Quelles sont vos priorités aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on a ouvert notre boutique en novembre 2023, donc ça fait bientôt 4 mois.
Félicitations.
Merci.
Elle est où?
Elle est à 17 rue de Grenelle.
Donc on est toujours à Paris.
Tout à fait, toujours à Paris. Et on est très fiers parce qu'on vient d'obtenir aussi la certification B Corp. C'était un long travail. On a travaillé dessus pendant plus d'un an et demi. Et j'étais très, très contente de la recevoir parce que c'est une certification qui prend en compte.
L'entreprise a fait en sorte de c'est avec les diamants de synthèse, de faire attention à l'environnement, la planète, tout en étant rentable.
Pas que. C'est ce qui est génial, c'est que c'est une certification qui prend en compte l'ensemble de l'écosystème et les entreprises certifié B Corp ont un engagement, pas uniquement pour les actionnaires ou l'environnement, mais aussi pour les clients et toutes les parties prenantes,
toute la chaîne
que
de valeur.
Ce soit exactement.
C'est qui vos actionnaires aujourd'hui?
Alors, on a des business angels qui ont des parcours différents dans l'industrie.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et oui, elle bouge cette France comme chaque soir. Et ce soir, nous avons la joie d'être avec Pauline Léniaud, fondatrice de Gémio. Elle a créé son entreprise de bijoux. On peut dire que c'est une autre façon de bijoux, pas les bijoux alternatifs, mais la façon d'avoir mis ça en place est totalement alternative avec votre mari. Une entreprise qui cartonne, qui rassemble les meilleurs savoir-faire. Pauline Léniaud, paraît-il qu'à l'intérieur de l'entreprise, on dit de votre entreprise qu'elle a une âme de maison de famille. Ah. En si peu de temps, en à peine 12 ans, comment vous faites pour que vous ayez une maison de famille déjà ?
Alors déjà, je pense que le fait que les deux fondateurs associés soient mariés, ça joue, c'est sûr. Et puis alors, pour la petite anecdote, on a maintenant, je crois, on a notre premier bébé 100% Gémio. Donc deux personnes qui se sont rencontrées Gémio, qui se sont mariées, qui ont eu un enfant. Enfin non, on en a un deuxième qui est en cours et qui va bientôt arriver. Donc voilà, c'est une vraie histoire d'amour à tous les sens du terme. Mais effectivement, je pense que au-delà de ce qu'on essaye de faire et de proposer à nos clients, les valeurs internes de l'entreprise sont très importantes. On a des valeurs de méritocratie, d'honnêteté. C'est des valeurs en fait qui moi me portent beaucoup et qui je trouve manquaient au monde du luxe.
Et ça veut dire quoi d'honnêteté dans
d'honnêteté pour vous donner un exemple, on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'on va devoir augmenter nos prix à cause du cours de l'or qui est en train d'augmenter. Et bien plutôt que de faire comme le font toutes les marques de luxe traditionnelles, c'est-à-dire de ne pas le dire en fait et augmenter les prix et mettre les clients devant le fait accompli, on a envie de considérer nos clients et on a envie d'être honnête avec eux et de leur expliquer la situation. Le cours de l'or est en train d'augmenter sauvagement, on ne sait pas quand ça va s'arrêter et c'est plutôt mal parti, l'inflation en tout cas elle est de plus en plus
donc
importante.
Donc il va falloir répercuter.
Et donc il va falloir répercuter et on leur laisse un peu de temps d'ailleurs pour se décider, passer commande, pas trop longtemps mais un petit peu quand même pour qu'ils puissent s'organiser éventuellement. Bah ça c'est quelque chose d'assez nouveau je pense dans le monde de la joaillerie.
Vous êtes dans le monde de la joaillerie, dans le monde du luxe que vous avez complètement comme on dit disrupté, vous avez tout bousculé. Ça signifie que par exemple comme vous fabriquez, vous pratiquez des prix liés à la joaillerie, vous facilitez les conditions de paiement, ça aussi c'est très moderne alors qu'on n'a pas forcément ça dans les grandes maisons de luxe.
Oui, et puis je le disais par exemple proposer des pierres de couleur qui sont pas du diamant, de l'aigle marine, une améthyste sont des très belles pierres et pour autant c'est des pierres qui sont beaucoup plus accessibles que le diamant. Donc on peut avoir un bijou en diamant qui sera à 5 000 euros et qui, avec une améthyste, sera à littéralement 600 euros. Oui. Donc c'est beaucoup plus accessible et c'est pas quelque chose qui est moins qualitatif, c'est juste une pierre qui est différente. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on est les seuls sincèrement à proposer aujourd'hui et qui permet d'avoir beaucoup plus de choix. Donc c'est une question effectivement de rapport qualité-prix, de prix juste, mais aussi tout simplement de plus de possibilités pour le client.
Je reviens sur votre maison de famille, j'aime bien ça. Et vos collaborateurs, vous êtes combien ?
On ne va être pas loin de 80 collaborateurs.
80
maintenant.
Collaborateurs, des maris, des femmes, des bébés Gémio, voilà.
Chiens aussi, parfois.
Et je crois que c'est vous qui venez, non ? Vous venez avec vos chiens, il me semble ?
Non, alors j'aimerais bien, mais j'ai pas de chien.
Non, vous n'avez pas de chien. Donc ça signifie qu'il y a peu de turnover ?
Il y a du turnover comme dans toute entreprise qui grandit.
Parce que partout c'est compliqué de recruter en ce moment.
C'est difficile et d'ailleurs je fais un petit appel pour des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas, on cherche notamment pour nos boutiques, on a des boutiques partout en France, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, on n'est pas du tout qu'à Paris. N'hésitez pas à nous contacter sur le site gemio.com, ge2migreco.com. Désolé, petit moment pub, mais c'est important.
Mais non, mais c'est important, c'est la France bouge, on recrute des talents. Il faut avoir une connaissance en gémologie ?
Pas du tout, on forme, c'est d'ailleurs une merveilleuse école en fait, c'est formidable. On a la Gémio Academy qui existe.
Une Gémio Académie,
ouais, on a la Gémio Académie où
c'est
on va former. Bah, vous savez, les personnes qui arrivent chez nous, en général, ne connaissent pas le monde de la joaillerie. Mmh. Moi-même, je ne connaissais pas le monde de la joaillerie quand j'ai créé ma marque. Et justement, c'est ça aussi qui a fait notre différence. C'est qu'on a repensé les codes de la joaillerie.
Donc, c'est quoi cette Gémio Académie ?
Eh bien, c'est en interne, tout simplement, en fait, notre formation, si vous voulez, sur à la fois la marque, bien évidemment, mais la joaillerie et la connaissance de nos conseillers en boutique est honnêtement assez imbattable, je trouve. Aujourd'hui, on est vraiment là pour apporter un service et un conseil et pas uniquement faire une vente. Et donc, évidemment, on parlait des 4C tout à l'heure avec Maïssa, on en parle. Mais au-delà des 4C, sur toutes les pierres de couleur, sur leur symbolique, leur extraction, enfin, on a vraiment une connaissance très très forte chez Gémio et on essaie de la transmettre à nos clients.
Claire Léger. D'autant que c'est important, quand on s'apprête à débourser une telle somme, de savoir exactement d'où ça vient et d'être accompagné.
Enfin, ouais, je veux dire, mais c'est vrai.
Littéralement, quand on va dans une maison de luxe, c'est vrai qu'on a le sentiment que juste ils veulent nous faire acheter.
Tout
parce que c'est un produit phare, etc. Alors que là, il y a un accompagnement beaucoup plus personnalisé.
Pas toujours. Il y a quand même des maisons de luxe où on raconte quand même les histoires. On va pas les stigmatiser.
Nous, on s'adresse à des clients qui ont un invariant commun, c'est qu'ils sont assez. En fait, ils s'intéressent à la culture. Enfin, je veux dire, c'est des personnes qui font de la recherche, c'est des personnes qui s'intéressent, qui creusent, etc.
Donc, vous prenez des passionnés.
Bah, c'est pas des gens qui connaissent la joaillerie en général, mais ils le deviennent. Et je trouve
c'est
un métier qui est assez formidable, et je pense que Maïssa sera d'accord, c'est que quand on tombe dedans, c'est un peu un puits sans fond de connaissances. Il y a tellement de choses. On parlait des pierres de couleur, il y a des voyages, mais c'est incroyable. Les savoir-faire aussi, parlons-en. Et c'est artisanal. Enfin, nous, aujourd'hui, et je pense
que
c'est
pareil pour Maïssa. Vous avez des chefs d'atelier, comme dans les grandes maisons.
On a des chefs d'atelier, on a des gémologues.
C'est une grande maison.
C'est des gens qui travaillent avec leurs mains, qui fabriquent. La bague en taille dont je vous parlais, c'est une bague dont je suis très fière parce qu'elle est fabriquée en France. C'est une bague qui a un motif un peu comme des stries gravées dans l'or.
Elle est très belle.
Elle est très belle. Et la raison pour laquelle j'en suis très fière, c'est parce qu'elle est 100% fabriquée en France de manière artisanale. Et ça, c'est rarissime. Une bague comme celle-ci, on va dire qu'un équivalent, j'ai pas envie de citer forcément des concurrents, mais les bagues Love, etc., c'est des modèles qui sont un petit peu similaires. Et bien, en fait, c'est peu fabriqué en France aujourd'hui, pour vous dire la vérité. Et surtout, c'est pas fait de manière artisanale. C'est fait avec des machines. Nous, on fait le travail, justement, de revenir à l'artisanat. Je veux un retour au luxe, un retour à l'artisanat.
Au luxe tel qu'on l'entend, c'est-à-dire l'artisanat,
exactement.
Le service,
pas le prix,
l'accompagnement.
Le dans,
et après, on met le prix en vrai. Quand on connaît tout ça, on met le prix. Maïssa Hazard, vous êtes la fondatrice de Loyal. Loyal, c'est une jeune marque de joaillerie qui a 3 ans, qui place le diamant de synthèse au cœur de toutes vos créations. Vous êtes parmi nous ce soir parce que vous avez des besoins et c'est le moment de la main tendue du coach vers l'entrepreneur dans La France Bouge.
Europe 1, le réseau La France Bouge.
Erika Lanoane, vous êtes la coach de ce soir, présidente de la prestigieuse maison de thé française d'Aman Frères. Comment pouvez-vous aider Maïssa pour qu'elle puisse compléter sa stratégie, c'est-à-dire d'avoir un site en ligne fort, mais aussi là sa première boutique qu'elle vient d'ouvrir?
Alors, je ne savais pas qu'elle avait ouvert la première boutique, mais c'est effectivement le conseil numéro 1, c'est cette fameuse stratégie qu'on appelle brick and click. Donc la stratégie brick and click, c'est le clic, c'est forcément Internet, et vous avez commencé toutes les deux, hein, Loyal et Gémio, de la même façon,
vous,
c'est-à-dire avec un site Internet. Mmh. Nous, c'était l'inverse, effectivement,
oui.
Parce que Daman a une très longue histoire.
Oui,
le
sûr,
digital n'existait pas en 1692. Mais voilà, moi, je trouve que c'est très bien de commencer aujourd'hui par le digital, et je pense que Daman, d'ailleurs, dans certains pays à l'export, commencera par là. Il y a des pays qui s'y prêtent parfaitement. Donc, digitaliser, c'est très bien. C'est vrai qu'après, pour l'expérience client, il faut absolument le brick, c'est-à-dire le point de vente physique où on va pouvoir accompagner encore plus loin le ou la cliente qui a envie d'acheter un bijou prestigieux, et tout ce storytelling, il est très important. Bon, c'est vrai qu'on va pas mettre une certaine somme d'argent si on ne sait pas ce que l'on achète et si on n'a pas toute l'histoire derrière. Donc, c'est important d'avoir la partie, le développement des boutiques. Et pour développer des boutiques, il faut aussi des fonds. Il faut recruter, effectivement. Donc, le recrutement, savoir s'entourer. On peut tout faire dans la vie, mais il faut être bien entouré pour ça. Et puis, le financement pour pouvoir ouvrir les boutiques. Alors, pas toujours une boutique à 100%. On peut aussi penser à des corners dans des department stores. C'est beaucoup moins.
Dans des centres commerciaux, dans des galeries financièrement, parce que
Ça permet déjà de tester un peu le marché. Ça balise un peu le risque. Il faut bien négocier avec les grands magasins parisiens parce que voilà, c'est important. Mais des corners, des pop-up stores, c'est aussi une façon un peu plus flexible de commencer dans la vie. Mais il faut après, je pense, faire un copier-coller de Gémio dans le sens où il faut des boutiques pour pouvoir s'y rendre.
Pauline Léniaud, vous êtes la fondatrice de Gémio. À toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, je sais que vous y connaissez, en plus vous avez un podcast autour de l'entrepreneuriat. Quels conseils pourriez-vous donner ? Qu'on soit jeune ou pas jeune, moi à chaque fois on dit les jeunes entrepreneurs, mais en fait on peut entreprendre à tout âge.
Bah bien sûr, et d'ailleurs il y a des magnifiques success stories de personnes qui se sont lancées un petit peu plus âgées.
On en voit chaque soir. Hein.
Vous les mettez merveilleusement bien en avant. Je pense qu'en fait beaucoup de gens ont peur d'entreprendre, et je le comprends, c'est légitime parce que c'est un saut dans l'inconnu, mais en réalité on a la chance en France d'être quand même assez bien accompagné. Et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec le président de la BPI qui fait un travail remarquable, Nicolas Dufour,
à cet égard. Que l'on salue.
Et en fait, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai part d'un principe, c'est mieux vaut vivre quand même avec sans regret. Et je pense que ne pas se lancer quand on a ce truc en soi qui nous tient en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait regretter toute sa vie. Et donc j'ai envie de dire, chassez la peur, arrêtez, détruisez la peur. En fait, en réalité, vous êtes beaucoup plus accompagné. Enfin, il y a quand même de fortes chances.
On est dans un beau pays, c'est ça.
On est dans un beau pays pour entreprendre. On est dans un pays merveilleux pour entreprendre. Il y a peu de pays au monde, sincèrement, où on est aussi bien accompagné qu'en France. Et je trouve ça dommage de ne pas le dire. Et donc, il faut en profiter. Il faut se lancer si jamais on a cette envie. C'est pas fait pour tout le monde. Mais par contre, si vous avez cette envie, essayez. Au pire, ça marchera pas. Et c'est pas grave. Et vous allez vous en remettre.
Le nom, on l'a déjà. Il faut aller chercher Louis.
Exactement.
C'est un petit peu ça. Merci en tout cas, merci Maïssa Zard. Il y avait un petit carnet d'adresses que vous pourriez partager avec, avec elle, Erika.
Moi je suis dans l'agroalimentaire, oui, donc j'ai un petit peu des difficultés.
Mais je voulais
en tout cas lui donner un autre conseil, c'est aussi celui d'aller s'appuyer sur un syndicat professionnel. Moi je suis aussi présidente d'une fédération de l'Alliance 7 dans l'agroalimentaire et je trouve que c'est très important parce que ces fédérations et ces syndicats apportent aussi un véritable soutien au quotidien. C'est non négligeable quand on est une petite structure et qu'on n'a pas de jury, qu'on n'a pas de personnes pour suivre la réglementation. Tous ces points-là sont quand même, je pense,
à ne pas négliger et à prendre en compte. C'est bien noté, Maïssa Zard.
Très bien noté.
Vous reviendrez nous donner des nouvelles, hein, c'est ce que
avec
l'on
grand
souhaite.
Plaisir.
Comme chaque soir dans La France bouge, nous avons des histoires d'entrepreneurs, comme celui ce soir avec vous, Clara Léger, du fondateur de Nemes.
Europe 1. La belle histoire de La France bouge.
Alors ce soir, cette histoire avec le fondateur de Nemes, Clara, racontez-nous. Ce sont des bijoux.
Oui, exactement. Nemes, c'est la première marque qui permet à chacun de designer un bijou de manière simple et ludique. Ça a donc été cofondé par Arnaud Dobresque. Alors on a tous, j'imagine, déjà joué à un jeu vidéo. Vous savez, il faut créer un petit personnage, un petit avatar.
Moi non. Bien.
Alors, on va vous expliquer. Hein. Nemes, ça fonctionne un petit peu de la même manière.
En fait, on s'est inspiré de la création d'un personnage pour permettre aux gens qui sont pas forcément créatifs, parce que la créativité, c'est quelque chose d'assez particulier. En fait, on permet aux gens de jouer avec le bijou pour avoir un bijou qui, à la fin, soit toujours unique, parce qu'il y a 172 milliards de combinaisons possibles. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer une expérience quasi sur mesure, de manière très accessible, parce que le prix d'entrée, il est à 69€ pour une bague sur mesure.
On crée son bijou sur le site internet de la marque, un petit peu comme si on créait son personnage de jeu vidéo, en choisissant sa bouche, son nez, ses yeux, ses cheveux. Donc là, on choisit le plaquage qu'on souhaite, si on veut du doré alors fin, plutôt du plaquage argent, si on veut telle forme, telle pierre, etc. D'ailleurs, j'ai une bague, là, je vous montre Elisabeth.
Hop, elle est très
juste
mignonne.
Là. Il faut seulement 15 à 20 minutes pour créer son bijou sur mesure. Au choix, donc bague, bracelet, collier, boucle d'oreille. Les bijoux sont en laiton. Ce sont des plaques de laiton en fait qu'ils découpent, puis dorés à l'or fin ou plaqués en argent selon votre préférence. Au total, sur le site, 172 milliards de combinaisons possibles. Oui, pour créer un bijou unique, confectionné avec un savoir-faire bien précis.
La confection du bijou prend 3 semaines. En fait, c'est un savant mélange entre artisanat et nouvelles technologies. On a au tout début une découpe laser qui est faite à Nevers en Bourgogne, qui vient donner la forme initiale du bijou. Puis après, il y a des reprises qui sont faites par des artisans bijoutiers à la main dans diverses parties de la France. Et il y a une finition qui est faite en Ile-de-France pour la dorure à l'or fin ou plaquage argent en fonction du choix de la personne.
Niveau prix, ça reste accessible à partir de 69€ pour une bague.
Voilà.
Et vous avez un bijou uniquement composé et créé par vous-même.
Ça s'appelle Nemes. Merci Clara Léger, hein, et avec le portrait d'Arnaud Dobresque. Pauline Léniaud, vous êtes la fondatrice de Gémio. C'est quoi votre prochain rêve ?
Ah, j'en ai trop.
Mais non, mais c'est formidable. Moi, c'est ça que j'aime bien.
Je m'amuse beaucoup. C'est de continuer. Enfin, mon rêve, moi, le rêve de ma vie maintenant, et c'est drôle parce que je suis arrivée un peu par hasard là-dedans, c'est de faire de Gémio la marque de ma vie. Moi, j'ai pas prévu de vendre. J'ai prévu d'en faire une entreprise familiale. On parlait de ça, que je détiens avec mon mari, et en fait, d'en faire vraiment le nouveau luxe, en fait. Enfin, l'avant-garde du luxe tel qu'il devrait être. Mon rêve, c'est qu'un jour Gémio soit mondialement connu et soit devenu la référence, un peu comme, je sais pas, Tesla est la référence des voitures électriques, bah qu'en fait, Gémio soit devenu la référence des nouvelles maisons
du
de luxe.
Luxe à la française.
Et peut-être que Loyal fera partie aussi de ce nouveau mouvement, je pense.
C'est ce que l'on vous souhaite.
Ouais.
Donc, Place Vendôme.
Parce que c'est nouveau luxe, pourquoi pas, c'est nouveau luxe. Alors je pense qu'il faut le réinventer. Il faut réinventer
donc
un nouvel endroit.
C'est où la nouvelle place Vendôme?
Faut changer les codes. On l'a pas encore trouvé. Je suis encore en train de réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Envoyer un petit message. Mais non, aujourd'hui, vous voyez, on a choisi des boutiques justement qui ne sont pas dans les artères classiques de la joaillerie. Rue de Seine à Paris, on en parlait. On est aussi rue de Courcelles, par exemple, où je parlais des boutiques évidemment qui sont en province. Mais c'est vrai que ça nous permet, si vous voulez, de ne pas faire comme les autres. Et ça, je pense que c'est important. C'est d'ailleurs un petit conseil que je peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent. Essayez toujours, et d'ailleurs Loyal le fait d'ailleurs très bien, d'être différent. Parce que c'est aussi comme ça qu'on émerge. Et donc, il faut réussir en permanence à se poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Bien sûr, avec du sens. Il ne faut pas être différent juste pour être différent.
Donc, votre prochain rêve, si j'ai bien compris, Pauline Léniaud, c'est d'installer que Gémio perdure au fil des génération.
Oui, plus qu'ils perdurent, qu'ils s'enrichissent en termes de taille, qui deviennent vraiment de notoriété.
On vous a souvent proposé de vendre ?
On nous l'a déjà proposé, oui, enfin, on nous a proposé, effectivement, mais aujourd'hui, ça ne fait pas partie de nos plans.
Il en est hors de question pour l'instant. Eh bien, merci, c'est déjà la fin de votre France Bouge. C'était un plaisir, un régal de vous avoir parmi nous ce soir sur Europe 1. Merci à vous, Pauline Léniaud, fondatrice de Gemio.
Merci à vous.
Maïs Hazard, bonne chance.
Merci.
Et bravo de vous être lancée dans l'entrepreneuriat, fondatrice de Loyal. Erika Lenohan, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous en tant que coach.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes la présidente de Daman Frères. Merci, Clara Léger.
Europe 1. La France bouge. 20h, 21h, Elisabeth Assayag.